Déjà, merci à vous d'être là, nombreux. C'est toujours un plaisir de voir une salle pleine pour parler regards croisés sur les imaginaires de l'océan Indien. Alors, déjà, une petite présentation de mes deux invités pour ceux d'entre vous qui ne les connaîtraient pas. Donc, il y a ici Sophie Bazin. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc, plasticienne, éditrice, vous dites « J'utilise la photographie comme un carnet de voyage d'île en île ». Et dans une vie antérieure, vous étiez aussi docteur en médecine et vous êtes née à Caen, est-ce que c'est ça?
Oui, mais vous révélez déjà beaucoup, là.
Ah, on verra. Et voilà, il y a aussi Zohar Ravalosson. Vous êtes romancier, nouvelliste et vous aussi, vous êtes docteur, mais pas en médecine, en droit, et vous êtes née en Tananarivo. Est-ce que c'est ça?
Tout à fait, merci.
Bon, jusque-là, tout va bien. Et voilà, donc, c'est le festival qui m'a demandé d'animer cette table ronde. Donc, je les en remercie. Je les remercie pour leur confiance. Et c'est vrai que je dois avouer que je ne suis pas universitaire, je ne suis pas une grande spécialiste des imaginaires de l'océan Indien. Donc, évidemment, pour ne pas dire trop de bêtises, j'ai quand même regardé un nombre certain de vidéos, d'interviews. J'ai lu plusieurs articles parce que je voulais éviter de faire moins bien que les universitaires et surtout de répéter plein de fois des questions ont été posées par 50 000 journalistes. Cependant, il est apparu qu'on se situe en Haïti, en Afrique, en océan Indien, en Bretagne ou alors en banlieue marseillaise. Il y a quand même des constantes dans les écritures, il y a des éléments qui reviennent. Et ces éléments que j'ai retrouvés dans les propos des constructeurs d'imaginaire et avec lesquels je voudrais, sur lesquels je voudrais échanger avec mes invités, c'est trois lignes directrices, la liberté, l'idée de transcription et le besoin de réparation. Voilà, silence dans la salle, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas.
C'est très profond.
Voilà. Alors, pour commencer, distance et liberté. Donc, je voudrais citer Alice Amir, qui pour des raisons professionnelles, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Il écrit... La distance avec les Comores me permet d'écrire librement. Je me sens moins vulnérable car la société comorienne est très sensible. Je me dis que je n'ai à obéir à aucune règle, ni à la tradition, ni à la religion. J'évite la chape de plomb qui pourrait me plomber. Dans la foulée, je cite aussi Michel Rakotosson. Avoir deux systèmes de pensée qui cohabitent me permet d'être tout le temps à distance et de défendre ma propre culture et de me protéger de toutes les pressions idéologiques et linguistiques et donc d'être libre. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Sophie Bazin. Yep, j'attends qu'on vous passe le micro. Pour vous, quelle est cette deuxième langue dont parlent les deux auteurs, aussi bien puisque eux, cette deuxième langue, c'est la langue française. Vous, est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que, en tant qu'auteur visuel, si on peut dire, qu'est-ce qu'il y a une autre langue qui vous permet de dépasser tout ce poids, en fait, de là où vous êtes né pour écrire?
Alors, j'ai beaucoup de langues autant que j'ai de pays et d'attractions, en fait. C'est vrai que je peux considérer la photographie comme un langage. Mais surtout, c'est vrai que pour moi, c'est d'abord une sorte de bloc-notes, en fait. Même si je ne garde que les photos que j'aime, donc je fais un tri, mais c'est aussi une manière d'écrire une sorte de carnet de voyage à chaque fois, même d'ailleurs quand je suis ici en France, enfin, c'est une habitude. Mais j'ai envie de dire que ma langue est aussi le créole réunionnais, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir à l'époque où j'ai vécu à La Réunion, dans un souci de faire corps avec la terre où je vivais, tout simplement. Ma langue, c'est aussi le malgache, puisque à travers la maison d'édition qu'on a développée par la suite, j'ai été amenée à fréquenter cette langue et avec un fort désir de me l'approprier, même si je ne suis pas très bien parvenue. Donc voilà, les langages, oui, ce sont pour moi effectivement des espaces de liberté. Alors après, quand Michel Rakoutson évoque sa capacité notamment à dire en français des choses qui ne pourraient pas être dites très facilement en malgache, je comprends très bien aussi que la langue puisse être perçue en fonction de la culture dans laquelle on a évolué comme un frein parfois, peut-être même un carcan. Mais je pense que justement, le fait de s'approprier d'autres langues ou d'autres langages, d'autres manières de s'exprimer, c'est justement faire exploser un peu toutes ces choses un peu étroites, tous ces carcans, et aller vers plus d'espace de liberté. Oui.
Et alors vous, quelle serait votre langue carcan ? Alors, est-ce que vous avez une culture carcan ?
J'en avais une quand j'étais jeune, c'était ma Normandie natale. Effectivement, elle m'est apparue assez rapidement beaucoup trop étroite. Mais maintenant, je la retrouve avec bonheur puisque j'ai dépassé justement ces limites qui me pesaient quand j'étais jeune et je suis allée voir ailleurs. Je pense que j'aimerais bien citer ici Wilfried Sondé qu'on va voir aussi ce soir et qui dit que l'homme n'a pas de racines, ça n'est pas un arbre, c'est un homme, donc il a des jambes et il se déplace. Donc finalement, les carcans ne sont là que dans nos têtes, c'est en se déplaçant aussi qu'on peut les dépasser.
Alors je me tourne vers vous, Zohar, est-ce que, parce qu'on a entendu quand même plusieurs fois, on vous a entendu dire je suis un auteur dégagé. Alors est-ce qu'on est un auteur dégagé en français ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
Non, pour moi c'est pas une question de langue. Le dégagement, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Quand je dis dégager, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on entend souvent d'un auteur engagé. C'est plutôt pour moi, c'est plutôt pour me dire que je ne représente personne. Et que, comme c'est un état d'esprit, je n'ai pas envie d'être porte-parole, en fait, c'est ça. Et pour pouvoir dire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, sur les sujets dont j'ai envie. Je dis ça parce que, en fait, pour les auteurs qui écrivent en français comme moi, qui viennent d'autres pays qui n'est pas la France, on a tendance à nous voir, une fois arrivés ici, comme représentant ou parlant uniquement des choses qui relève de notre pays. Et pour moi, l'écriture, c'est ça le langage. Et l'écriture, c'est le langage libre par excellence, parce que je peux très bien parler de mon pays Madagascar, mais je peux aussi parler de choses qui se passent, je ne sais pas, en France, mais aussi en Asie, aux États-Unis, ou je ne sais pas où. C'est dans ce sens-là que je parle de dégagement. Oui.
Donc en fait, ça veut dire que les choses se passent dans l'écriture, mais il ne faut pas compter forcément sur vous pour faire des choses malgaches.
Voilà, bien que dans la réalité, tous mes livres parlent de Madagascar pour l'instant, ou enfin d'un certain Madagascar. Et là, c'est notre thème aujourd'hui, c'est l'imaginaire. Il y a évidemment l'imaginaire malgache que j'ai, mais mon Madagascar à moi ne s'arrête pas au territoire. Dans mon Madagascar, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des gens... Des personnes réelles qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, les Malgaches viennent d'ailleurs. Mais il y a également tous les personnages des livres qui m'ont nourri. Les livres qui m'ont nourri viennent de partout. Et qui viennent augmenter cet imaginaire-là. Et il y a aussi les voyages, Sophie vient de nous parler, c'est les voyages, on dit, forment la jeunesse, mais forment aussi l'imaginaire. Et cet imaginaire, je le voudrais aussi grand que possible, ne pas se restreindre à... en fait, ce que j'aime pas dans les carcans où nous assigne lorsqu'on nous met dans les tiroirs, c'est que comme si on pouvait pas faire plus que ça, alors que justement c'est ça ce qui est intéressant avec la création et notamment avec l'écriture, c'est que on peut prendre cet imaginaire-là n'importe où. On n'est pas obligé de rester la dernière fois à la Riche. En dernière conférence, il y avait quelqu'un qui parlait d'authenticité. Je crois que on évolue avec sa vie, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on voit, avec ses voyages, et que on peut pas réduire les gens à cette idée d'authenticité en disant voilà, il est né à Madagascar de père et mère malgache, et donc s'il parle d'autre chose que de Madagascar, ce sera plus authentique. Je ne vois vraiment pas les choses de cette façon. Je comprends même pas très bien ce que ça veut dire authentique, parce que j'ai vraiment du mal avec ce mot. Oui, ça.
Est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, par rapport à cette idée d'authenticité ou de pureté, où on retrouve exactement le même style de problématique par rapport au conte traditionnel, parce qu'effectivement, il y a eu des postures, enfin des positions idéologiques à un moment donné qui sont allées à la recherche du conte d'origine traditionnelle, le plus ancien, le plus primitif possible, qui aurait été l'expression la plus essentielle de l'âme humaine. Enfin, ça a été revêtu de divers vêtements. Je ne suis pas universitaire pour en parler, mais je me suis un peu intéressée à ça. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que la position, enfin, la plus communément admise, c'est que le conte est une histoire qui voyage, vivante, comme une langue d'ailleurs, qui peut s'enrichir d'éléments, qui peut en perdre en route aussi, qui traverse largement les frontières, les cultures, et que donc aller à la recherche d'un conte authentique, c'est une illusion, puisque ce ne sont que des histoires qui passent de bouche à oreille, qui effectivement sont chargées de quelque chose qui ressemble à notre humanité, donc qui sont précieuses en cela, mais en même temps, il serait complètement illusoire de vouloir les revêtir de notions telles que la pureté, l'authenticité. Alors nous, on publie ce qu'on appelle des contes traditionnels. Donc c'est pareil, traditionnel, qu'est-ce qu'on met dans ce mot-là ? Est-ce que ça veut dire le vrai, le bon ? Bon, les contes de Perrault, les contes de Grimm ont été largement remaniés par leurs auteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus moins bons ou que ceux d'avant étaient meilleurs. C'est juste que voilà, ils sont passés par d'autres bouches, hein, et donc ils ont subi des transformations. Nous, on se dit juste que voilà, on publie des histoires qui sont racontées, qui passent de bouche à oreille depuis un certain temps. Quand on a des versions attestées, publiées, on essaye de les signaler, mais il n'y a aucune revendication de pureté ou d'authenticité. C'est juste, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas des fictions d'enfants, par exemple. Ce ne sont pas les enfants qui les créent avec leurs instituteurs en séance d'atelier d'écriture. Non, non, ce sont toujours quand même des histoires qui ont été racontées avant nous. Mais c'est tout ce qu'on peut en dire.
Merci. Alors, je voudrais aussi me pencher sur la traduction, transcription, et j'ai remarqué qu'il y avait un phénomène récurrent, qu'il soit volontaire ou non, pour les divers auteurs, c'est, comment dire, le fait d'être rebaptisé. Alors, par exemple, Sophie Bazin, vous êtes aussi Marie Batiscaf, Marie Desel, quand vous travaillez avec les enfants, vous êtes aussi Soa Hélène, quand vous écrivez, et Zohar, vous êtes, ici en France, souvent, vous êtes Johari. Donc voilà, que ce soit volontaire ou non, Ali Zamir, c'est Zamir Ali en fait. Et donc, en fait, je me suis demandé, est-ce que pour entrer dans un imaginaire, pour créer un chemin d'accès à cet imaginaire, est-ce qu'il faut être soi-même traduit par les autres pour leur permettre de vous approprier en fait ? Ou comment on se laisse approprier par les lecteurs, par les autres, par un changement de nom, qu'il soit volontaire ou non ?
Moi, je dis que tous les chemins mènent à Rome. Et Rome ne change pas. N'importe quel chemin pour y arriver. Et c'est un peu ça, les noms. C'est un peu ça, les noms de baptême dont vous parlez tout à l'heure. De toute façon, ça ramène toujours à... Enfin, je ne sais pas pour... Enfin, je sais pour Sophie, mais je laisserai répondre. Mais moi, ça ne pose aucun problème. Moi, je suis arrivé en France à 19 ans. Et j'étais la première année que j'ai passée, c'était à Sciences Po à Paris. Une année pour les étudiants étrangers pour mieux connaître la France. Donc on venait de partout. Il y avait des Africains, des Américains et des Européens non français dans notre dans cette année spécifique. Et donc chacun de ces de mes co de mes collègues m'appelaient, il y en a qui m'appelaient Johari, il y en a qui m'appelaient Johari, il y en a qui, enfin, j'étais habitué avec ça, avec des gens qui ont des prononciations différentes, des accents différents, et ça me dérangeait pas du tout. Je savais qu'ils s'adressaient à moi. C'est pour moi, c'était pas du tout un problème de au contraire, moi j'écris en français. Quand je parle de Madagascar, des fois il y a des choses dans la langue que pour Johari ça me dérange pas, mais il y a des noms dans mon écriture, j'ai envie de les faire sonner comme ça sonne en malgache. Alors, dans mon dernier roman, par exemple, Volavif, ça se passe dans le sud de Madagascar, notamment dans une région qui s'appelle Lurumbe et Lichal. Et en malgache, ça s'écrit, ça se prononcerait, si on le prononce en français, ça deviendrait Isalo. Ou Yorambe, et pourtant moi quand je pense à ces paysages-là, le nom de ces paysages compte, et j'ai envie que les lecteurs francophones entendent aussi cette langue chantée. Et donc je l'écris, je change exprès la façon de l'écrire pour qu'on puisse l'entendre. Par exemple, pour ma ville, mon dernier roman, là ça parle d'Antananarivo, donc la capitale de Madagascar. Si je l'écrirais comme il faut, vous, quand vous le direz, vous allez lire Antananarivo. Et pour moi, ça ne va pas du tout. Parce que, un, vous n'avez pas le sens, et deux, vous n'avez même pas la musique du nom de la ville. Et donc, je l'écris en Antananarivo avec un E à la fin. Alors, tous les malgaches vont me maudire en disant « t'as gâché le mot malgache ». Mais j'ai dit non, je m'en fous, moi je veux faire entendre juste ce son-là, c'est important pour moi, c'est ça qui m'importe. Et j'hésite pas à changer. Et voilà, comme je dis, tous les chemins mènent à Rome, mais lorsqu'on arrive à Rome, on voit les splendeurs romains. pas de n'importe où on vient.
Alors, moi, j'ai un rapport avec les noms qui est assez ludique, en fait. Je me cache un peu derrière, sans vraiment me cacher, parce que c'est pas très difficile de me retrouver. D'ailleurs, vous avez presque tout trouvé. Mais en fait, moi, c'était un peu une nécessité, parce que je suis plasticienne au départ, et donc, sous mon nom de Sophie Bazin, j'ai eu une carrière, notamment à La Réunion, d'artiste peintre, de photographe, voilà, d'artiste plasticienne. Et quand j'ai commencé à faire des travaux d'illustration, des choses avec les enfants, ça me paraissait pas très logique de garder ce nom-là. Parce que c'était vraiment très très différent de ce que je faisais d'un titre personnel. Voilà. Et donc j'ai eu à ce moment-là besoin d'un nom pour ça. Et puis le pseudonyme, l'avantage c'est qu'on se le choisit. Donc on se le choisit comme on veut. Enfin, c'est aussi pratique de choisir son nom. Et c'est Zoar qui m'a donné des pistes, enfin qui a commencé à me proposer le premier pseudonyme de Marie Desailles, qui est devenu le nom avec lequel je signe tout ce qui relève de l'illustration et des ateliers avec les enfants. Marie-Baptiste Caff, c'est un nom qui est directement rattaché à celui d'Arius, hein, parce que Arius et Marie-Baptiste Caff, c'est le nom d'une entité à deux têtes, mais qui signe au singulier, que nous avons créé à La Réunion quand on a été amené à faire ensemble des installations, des événements plastiques, et on avait besoin d'avoir un nom qui nous rassemble tous les deux, et en même temps qui puisse s'exprimer au nom d'un seul. Et alors, on avait sur place Marius et Harry Leblanc, qui étaient eux aussi un couple bien avant nous, qu'ont reçu le Goncourt, enfin qu'ont créé le musée Léon Lierx, qui sont très célèbres à La Réunion, et qui eux aussi écrivaient au singulier et signaient Marius et Harry Leblanc. Donc on s'est dit, ben, on va déplacer le M, c'est devenu Arius et Marie. Et Baptiste Caff, c'était comme ça qu'on qualifiait les femmes blanches qui, à l'époque de l'esclavage, tombaient dans les draps d'un noir, et tombaient dans le Baptiste Caffre. Et ça voulait dire vraiment tomber dans les problèmes, dans les emmerdements. Enfin, c'était terrible, c'était ce qui pouvait arriver de pire. Donc Marie-Baptiste Caff, forcément, c'est moi. Et Arius, elle ne va pas sans Arius. Bon, à La Réunion, on s'est donc appelé comme ça. Mais quand on est arrivé à Madagascar et qu'on a voulu faire la même chose, travailler en tant qu'artiste, Arius et Marie-Baptiste Caff, ça ne pouvait pas aller, ça ne voulait plus rien dire. Alors on s'est appelé à ce moment-là Tsikant Tsitsimanine. Ça veut dire, c'est pas bien beau, mais on s'en fout. Parce qu'il y avait cette idée que l'art en malgache, on dit zavakante, les belles choses, l'esthétique, la transcendance, la quintessence. Et nous, on avait aussi envie d'ajouter un grain de sel, un peu de provocation dans tout ça, et dire, bon, c'est pas grave si c'est moche, c'est ce qu'on veut dire qui est important. Et puis Sue Hélène est arrivée directement quand je suis arrivée avec Zouar en 2008 à Madagascar pour y vivre. Parce qu'à ce moment-là, Zouar travaillait dans un cabinet juridique et il signait tous ses papiers de JR. Et donc forcément, j'étais la femme de JR. Ce qui m'arrangeait bien parce que Sou en malgache, ça s'écrit S-O-A, donc je l'écris comme ça, mais ça se prononce effectivement comme le Sou du JR américain.
Bon, eh bien, merci pour ces éclairages. Je pense que dans l'assistance, il y a quand même plusieurs personnes qui sont fans d'hétéronyme. Donc voilà, notre curiosité satisfaite. Et je voulais justement citer Ali Zamir à propos de cette idée, ou Zamir Ali, à propos de cette idée d'être traduit par les autres, de se renommer, de renaître par un autre nom, parce qu'il finit par dire, donc j'en profite pour faire de la pub, dans une excellente revue qui s'appelle Projectile, voilà. Il y a un entretien d'Ali Zamir dans le dernier numéro, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Et il dit « On m'accuse de décrire les Comores comme un monde de blanc. » Donc voilà, tout ça pour ça. Finalement, les gens ne sont jamais contents. Voilà, et donc je poursuis sur ma lancée, puisque j'ai le micro, je le garde. Et je cite, alors... Évidemment, je vais évidemment écorcher le nom malgache, mais c'est pas grave, j'ai deux personnes là pour le redire mieux. Alors c'est un auteur qui s'appelle Ray Lovi, comme ça vous pourrez me corriger après. « Maintenant, ceux qui en ont la curiosité intellectuelle peuvent toujours demander, dans la pensée traditionnelle malgache, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ? Question à laquelle me manquera aussi toujours l'élément éclairant lorsque je lis un auteur indien, japonais ou allemand. » Alors voilà, il y a cette idée d'indicible, d'impensé, d'un imaginaire à l'autre. Et voilà, j'aimerais bien que vous puissiez réagir tous les deux.
Alors, des choses indicibles. Voilà, la réflexion qui me vient tout de suite, c'est quand des auteurs à plusieurs langues, comme moi, disent « il y a des choses... » que je ne peux pas dire dans une langue. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que toute langue peut dire tout ce qu'on veut. Maintenant, est-ce qu'on a envie de le dire dans cette langue ? Ou est-ce que c'est plus facile dans une langue que dans une autre ? Ça, c'est tout à fait possible. Je cite souvent l'exemple de Michel Racoutsant, parce qu'elle l'a dit en public, en disant que quand elle écrit en malgache, elle a des difficultés, elle a un certain gêne plutôt à dire certaines choses parce que ça le gêne, elle a l'impression d'être lue par son frère. Et vous savez, à Madagascar, on a pas mal de tabous, de ce qu'on appelle les fades. Et on ne va pas, par exemple, parler avec, si on est une femme, ou de parler de son frère, par exemple, les choses qui se passent au lit. Ou pour un homme, le contraire, de parler avec sa sœur de ce qu'il fait au lit avec sa femme. C'est tabou. Et Michel, ce qu'elle disait, c'est que quand elle écrit des scènes de sexe dans ses romans, elle a du mal de le dire en malgache parce qu'elle a l'impression qu'il y a son frère qui est en train de le lire à cause de ce tabou-là. Et donc ça, je comprends bien que pour certaines personnes, ça peut être plus facile ou moins facile de dire certaines choses. Mais ce n'est pas la langue qui refuse. C'est la personne qui parle qui a des difficultés ou des gênes de dire certaines choses. Mais la langue peut tout dire. Mais effectivement, après, ça peut rentrer dans le... ce n'est même pas l'imaginaire, mais dans la pensée collective. Je veux dire, dans les romans malgaches, écrits en malgache, en ce moment, on parle rarement de sexe, par exemple. Parce que justement, il y a ce tabou qui flotte, et en plus du tabou traditionnel, les malgaches sont devenus très très chrétiens, et donc on dirait que voilà, ils ne baissent jamais au lit, quoi. C'est, excusez-moi des mots crus, comme ça réveille certaines personnes. Voilà. Mais voilà, dans les romans, on ne parle pas de ça. Dans les romans en langue malgache. Tellement que on a intériorisé, c'est comme si c'était une règle, qu'on ne pouvait pas le faire. Bon, moi j'écrivais en français, donc je n'avais pas ce problème. Mais par contre, j'ai traduit un roman qui s'appelle « L'Oragé » de Dounalou, paru au Mercure de France, en malgache, où il y a des scènes de sexe, et je l'ai traduit en malgache. Donc du coup, maintenant, il y a un livre, au moins en malgache, où on parle de ça. Et donc, c'est possible avec la langue. Et quand je l'ai présenté à Madagascar, dans une audience comme celle-ci, les gens, j'ai fait des lectures, évidemment, et il y a eu des « oh, ah, enfin, dans la salle », des choses qui n'étaient pas possibles. Mais une des raisons pour laquelle j'ai traduit ce livre, la première, c'était parce que ça parlait d'un grand auteur malgache que j'adore, Jean-Joseph Rabierville. Mais la deuxième, c'est aussi pour dire que c'est possible de le faire en malgache. Mais peut-être que des fois, on a des réserves pour y arriver. Mais les langues évoluent, les langues peuvent dire tout ce qu'on veut. C'est le locuteur qui ne veut pas dire et ne le dit pas. Mais il n'y a pas de choses indicibles en soi pour une langue. Tout est possible. On peut le faire. Maintenant, ça dépend des personnes.
Oui, moi je dirais qu'il y a autant d'imaginaires qu'il y a d'auteurs. Après, ce qui peut enrichir la lecture ou pas, c'est l'implicite. C'est-à-dire qu'effectivement, là par exemple, je lis en ce moment des textes qui me parviennent pour la revue Lettres de Lémurie. Quand un auteur va évoquer des choses que j'ai connues, que j'ai bien vécues à La Réunion, je vais tout de suite me projeter dans ce qu'il me raconte. Si je n'avais pas vécu à La Réunion, je le découvrirais avec un autre état d'esprit. Peut-être avec plus de surprise, avec une certaine curiosité, mais une petite part d'incompréhension aussi, sûrement sur certaines choses. Donc moi, je ne pense pas non plus qu'il y ait de l'impensé ou que les imaginaires soient si différents d'une nation à l'autre. Vraiment, je pense que les imaginaires, c'est le propre, chaque imaginaire est le propre de chaque auteur. Mais c'est peut-être du côté du lecteur qu'effectivement, la réception du texte ne sera pas la même, et ça dépend encore de quel texte. Il y en a qui sont bourrés d'implicites, d'autres qui sont parfaitement explicites. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une affaire de rencontre entre un auteur et un lecteur, en fait.
Si je peux me permettre. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, avec l'imaginaire, parce que, justement, on n'est pas aussi lié à la réalité. Et à quoi ça sert de rêver si on rêve que des choses qu'on connaît ? C'est l'imaginaire, c'est ça. C'est, on peut aller au-delà de la réalité, de ce qu'on voit là. Et c'est ça qui est intéressant dans la création. Si je me résume à raconter que des choses que les gens voient À quoi ça sert? Et l'imaginaire, justement, nous permet d'aller au-delà des choses et peuvent peut-être relier plus facilement des gens qui ne se voient pas, qui sont éloignés les uns des autres. Et c'est ça qui est bien avec l'art et la littérature, de pouvoir communiquer avec n'importe qui et ne pas rester simplement dans son cocon habituel, là où on est en sécurité. C'est...
Alors, est-ce que vous allez contredire l'un et l'autre, un autre auteur malgache que je cite, toujours en appropriant son nom si on veut, Naïvo, qui dit « Pour l'écrivain malgache, je dirais que le malgache est un défi toujours prometteur, tandis que le français est un pari probablement perdu d'avance. »
Bon, je crois que ça s'adresse à moi. bon, défi prometteur pour la langue malgache, oui, parce que ce qui est intéressant avec la langue malgache, c'est que c'est une langue agglutinante, donc on peut inventer plein de choses, des mots qui n'existent pas. Mais j'ai fait l'expérience aussi en français, c'est possible. Je transpose pas mal la langue malgache quand j'écris en français pour essayer de tirer quelque chose, parce que moi je considère ça comme une richesse, pas comme une limite. Le fait que j'écris dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle ne m'empêche aucunement. Bon, évidemment, je me fais corriger dans mes imperfections, dans ce que je connais, dans mes difficultés grammaticales, je peux me faire corriger, mais en même temps, pour moi, c'est une richesse parce que je peux apporter dans la langue française des formulations qui n'existerait pas sinon. Ben évidemment, au départ, on me dit c'est pas français, mais moi je dis écoutez bien. Finalement, on peut entendre quelque chose de français. C'est ça qui est intéressant de cette ouverture que peut emmener une autre langue en s'exprimant. Dans une deuxième. Sinon, je vais revenir sur la citation de Naïf, parce que on en parle aussi dans un autre livre. J'ai pas le nom. C'est un auteur tunisien. C'était l'autopsie des décolonisés, je crois. Non, j'ai... Pardon ? Portrait d'un colonisé, où il disait que les auteurs des pays coloniaux, en fait, qui écrivent en français, ils vont dans une impasse. Et c'est à peu près ça que dit Naïf, parce que, en fait, ces pays coloniaux sont appelés donc à recouvrer leur langue, et donc celui qui s'est extrait de cette langue maternelle pour écrire dans une autre langue, fait un suicide, en quelque sorte, parce qu'il n'aura pas de lecteur, etc. Effectivement, c'est tout à fait vrai dans le cas général, mais moi, je me suis engouffré dans cette impasse, et bon, je ne me sens pas emmuré. Au contraire, comme je le disais tout à l'heure, ça enrichit mon écriture d'avoir ces deux langues-là. Ça ne m'empêche aucunement d'écrire en malgache si j'en ai envie. J'ai plus de plaisir, je reconnais, à écrire en français. Je fais des traductions vers le malgache parce que c'est pour moi aisé et que j'ai envie de transmettre quelque chose aussi dans cette langue. Mais pour moi, d'écrire en français, comme je disais, ça m'enrichit plus que... Je n'ai pas l'impression d'être dans une impasse.
Moi, je voudrais rajouter un peu l'avis de l'éditeur, parce que dans ce que dit Naïve, qui publie en français, qui écrit en français et qui publie en français, j'entends peut-être une impasse commerciale. Enfin, peut-être que c'est ça aussi ce qu'il veut dire, c'est que effectivement, un auteur malgache qui écrit en français, du coup, vu son isolement, va être assez peu entendu des lecteurs francophones. Et vu son français, va être assez peu lu des lecteurs malgaches au pays. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça peut paraître une chose difficile à réaliser. Je pense qu'en tout cas, du point de vue de la littérature francophone, l'intérêt est de plus en plus marqué des lecteurs francophones pour cette littérature-là, pour les voix venues d'ailleurs. Quant aux lecteurs du pays... Même si, bien sûr, on aimerait tous que la littérature en malgache se développe beaucoup et de nombreux locuteurs et de nombreux lecteurs, force est de constater que le français est toujours la langue cible des classes privilégiées, la langue cible aussi des familles modestes pour leurs enfants, puisque c'est la langue dans laquelle il y a une sortie possible vers un système universitaire. Enfin, voilà, donc... l'histoire est ce qu'elle est, on ne peut pas imaginer gommer tout d'un coup. Et enfin, je ne vois pas pour ma part le français comme une impasse, même si je pense qu'il est effectivement nécessaire de bien prendre conscience des déséquilibres qu'il existe au niveau linguistique et en ayant conscience de faire tout pour rééquilibrer les choses. C'est-à-dire, en gros, d'équiper les langues peu publiées, que ce soit le créole réunionnais, ou que ce soit le malgache, ou que ce soit encore plus les variétés régionales du malgache, de publier et de passer à l'écrit ces langues-là aussi, parce qu'elles le sont peu, et ça n'est pas juste.
Alors, je voudrais poursuivre sur le... quand même que vous ayez le temps de poser des questions. Je sens qu'il y a plein de questions qui se préparent. Dans l'idée de restaurer et reconstruire un imaginaire. Alors, Sophie Bazin, on peut lire sur certains sites que vous dites de votre travail « On connaît peu de pays, mais on va toujours aux mêmes endroits, régulièrement, comme les oiseaux. » Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si, dans votre travail de créatrice, de peintre, de photographe, est-ce que ça vous arrive de revenir à votre premier domaine de compétence qui est le soin? Et j'ai pensé à ça quand je me suis penchée sur votre travail qui s'appelle la revanche des dodos. Donc je vais vous laisser nous expliquer en quoi ça consiste et, voilà, et réagir sur cette idée de soin et de reconstruire quelque chose.
Alors plus encore que l'idée du soin, c'est l'idée de l'éphémère, de notre place au sein de cette petite planète, de ce grand univers. Et effectivement, je pense que mon cursus médical m'a amené très vite à me confronter à ces notions de vie, de mort, d'existence, de génétique. Et du coup, l'idée de la fragilité de tout ça, de ces équilibres, est peut-être la chose qui est la plus constante dans l'ensemble de mon travail. Et donc le dodo s'est imposé un peu naturellement, même si c'est un oiseau mauricien, parce qu'il est tout simplement le symbole des espèces disparues. C'est une sorte d'étendard commode. Tout le monde le connaît dans l'océan Indien. La plupart des gens de l'océan Indien, d'ailleurs, pensent qu'il a existé à La Réunion. J'ai entendu aussi des professeurs malgaches me dire qu'il y en avait dans les forêts de l'Est, ce que personnellement je ne pense pas. Mais voilà, il appartient un peu, c'est une sorte d'oiseau qui appartient un peu... aux îles des archipels de cette partie-là de l'océan Indien. Et il a un côté, enfin du moins c'est comme ça qu'on se le représente, parfois très stupide comme dans l'âge de glace, ou parfois très débonnaire. Parce qu'en fait, les explorateurs qui ont vraiment vu le dodo et qui l'ont décrit dans leurs traces, alors parfois ils se pompaient, donc c'est un peu difficile de faire la part des choses dans tout ça. Mais en tout cas, ils expliquaient très nettement que c'était un oiseau d'abord très pacifique, pas du tout méfiant. Et puis, quand on l'enfermait, il supportait pas la captivité, donc il se mettait à ne plus se nourrir, il se mettait à pleurer. Il avait une relation de couple assez stable. Enfin, voilà, des éléments comme ça un peu qui peuvent nous surprendre aujourd'hui et qui font que, enfin, moi j'arrive assez bien à me projeter dans ce gros volatile un peu balourd là. Alors la revanche du dodo, c'est un projet précis que j'ai mené à La Réunion avec 800 gamins de 33 classes à l'invitation d'un festival, le Tempo Festival, qui est un festival de théâtre vivant, enfin de spectacle vivant, théâtre de rue. Et l'idée, c'était de permettre aux enfants de s'exprimer à travers une grande œuvre pour aussi amener leurs parents qui souvent habitent dans les hauts de l'île, vont peu au spectacle, pour les inviter en fait à descendre et à venir voir le travail de leurs enfants, un peu comme tout à l'heure il y avait plein de parents pour entendre les enfants avec leur antenne. Et donc ces dodos ont été, chaque enfant en fait a réalisé un dodo qui a été ensuite installé dans un grand mobile, et la particularité de ce mobile, c'est qu'il était à hauteur d'homme et installé dans un lieu d'accueil. Donc en fait le public était un peu dirigé obligatoirement vers ce lieu d'accueil pour avoir le programme du festival, pour acheter les places, enfin voilà. Et puis il y avait aussi des ateliers qui se dirigeaient, c'est une école maternelle qui est transformée pendant le festival. Et donc en entrant dans ce lieu, les gens étaient forcément frappés par les dodos. Qui étaient des dodos quand même gentils, hein, en carton, léger. Et donc je l'ai appelé la revanche du dodo, parce que c'était l'idée que les explorateurs avaient bien tapé sur les dodos quand ils étaient arrivés sur l'île Maurice. Et là, c'était un peu les dodos qui tapaient les gens, qui, voilà, qui se rappelaient un peu et qui venaient rappeler aux visiteurs la précarité des équilibres vivants. Voilà. C'est globalement, je pense que c'est un peu ce qui définit mon travail, cette idée toujours prégnante de l'éphémère, en fait.
Du coup, je trouve le micro. Oui, et là, je voudrais poursuivre cette réflexion sur l'idée de recréer un imaginaire, de réparer quelque chose. Et j'aimerais bien que tous les deux, vous nous parliez de ce travail que vous avez mené dans un village Zafi Maniri. Est-ce que vous voulez déjà rappeler pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce que vous avez fait et pourquoi en fait ?
Alors les Zafi Maniri, donc c'est une population des hauts plateaux de Madagascar. En Madagascar, c'est très grand, très grand. Donc, il y a une subdivision dont on parle souvent. Il y a les hauts plateaux et les côtes. Mais c'est une subdivision qui n'est pas suffisante parce que c'est très très varié. Mais en tout cas, les Zafi Maniri, donc c'est une population des hauts plateaux, donc du centre de l'île. Et leur particularité, c'est que c'est la dernière population qui vit encore dans la forêt. Et comme vous savez, Madagascar était une forêt, enfin c'était une grande forêt auparavant, et maintenant il reste plus grand chose. Et moi je viens des hauts plateaux, ma ville, donc Antananarivo, était aussi dans la forêt auparavant. Antananarivo auparavant s'appelait Analamang, ça veut dire la forêt bleue. Et maintenant il faut aller très loin avant de trouver une forêt. Et la population Zafi Maniri m'intéressait parce que je me disais, comme ils sont restés dans la forêt, je me disais qu'ils gardaient des choses que moi, habitant en ville, qui a connu l'ouverture sur l'extérieur, qui connaît la modernité, etc., il y a des choses que je ne connais plus et que peut-être les Zafi Maniri gardaient encore. Et les Zafi Maniri avaient et donc les Zafi Maniri, je supposais qu'ils gardaient des choses que moi je ne connaissais pas. La deuxième chose, c'est que les Zafi Maniri sont des grands travailleurs du bois. Comme ils habitent dans la forêt, ils sont bûcherons, charpentiers, menuisiers, sculpteurs sur bois. Et ils ont des maisons magnifiques. La particularité de ces maisons, bon, c'est des maisons toutes en bois, avec des bois variés, des bois de fer pour faire les fondations, de l'ébène pour faire les piliers, des bois moins durs pour faire les coins, les portes et les fenêtres de ces maisons de bois sont gravées de signes mystérieux, des signes plutôt abstrait, géométrique. Il n'y a pas de. Ils ont aussi le tabou de la représentation. C'est-à-dire quand ils ne dessinent jamais d'hommes, ils ne dessinent pas d'animaux. Enfin, maintenant, ça vient. Maintenant, ils le font parce que les touristes le demandent. On leur demande des lémuriens, des lézards ou des caméléons. Ils le font parce qu'ils sont très habiles de l'homme. Mais à la base, ce qu'ils gravent sur leurs portes et les volets, c'est des signes géométriques abstraits. Et ces signes-là, je les ai trouvés dans des très anciennes maisons à Antananarivo. Et je me demandais ce que ça voulait dire. Et on est allé chez eux pour comprendre ces signes-là. Et en même temps, je les associe à des choses que nous, citadins, ne connaissaient plus.
Je voudrais ajouter que c'est une sorte de conservatoire. Les villages savent manier, c'est très impressionnant quand on pénètre, parce qu'il faut imaginer un territoire grand comme la Réunion, qui n'est traversé que de sentiers, et qui ne sont pas des sentiers entretenus par l'ONF, hein, des sentiers assez rudes parfois. Et donc on change de monde, on est d'un seul coup dans le temps des saisons, on n'est plus du tout dans la temporalité moderne, mondialisée, enfin c'est une autre époque aussi. Et on reproche toujours à ces Afmanir de faire disparaître la forêt, parce que comme ils grandissent, comme ils deviennent plus nombreux, ils ont besoin de nourrir les enfants, les familles, et donc ils vont couper les forêts et remplacer par des rizières pour nourrir leurs familles. Mais ce qu'on oublie souvent, et ce que Juliette Ratimanja va très bien rappeler dans une table ronde sur le sujet à Antananarivo, c'est qu'on peut leur reprocher aujourd'hui de couper la forêt, mais jusque-là, ils ont été un peu les seuls à la préserver. C'est-à-dire qu'il est très facile pour nous, occidentaux, ou même pour les habitants urbains d'Antananarivo, de dire « Mais enfin, attendez, vous avez une merveille, vous êtes en train de la saccager, vous n'y faites pas attention. » Oui, mais à Antananarivo, il y avait aussi une forêt, et de même, la France était couverte certainement à une époque de forêts primaires, et tout cela a disparu. Donc, plutôt que de les voir comme des gens qui détruisent, on peut aussi les voir comme des gens qui ont longtemps conservé. Et cette vision-là est très importante parce que actuellement, avec tous les soucis de réchauffement climatique, de les problèmes écologiques, enfin cette conscience qu'on a que la planète se réduit et devient une parcelle fragile, moi je me fais souvent la réflexion que si on vivait tous comme les Afmanir, on ne créerait pas la même pression, c'est évident, puisqu'ils ne se déplacent qu'à pied, ils ne produisent que ce qu'ils mangent, ils se couchent avec le soleil, ils se lèvent avec, et ils ont une vie très rude, mais très frugale et vraiment très économe. Et évidemment, quand je dis à Zouar, mais si on veut garder la planète, il faut qu'on vive comme les Afmanir, il me dit, mais moi, je préfère écrire.
Alors malheureusement, nous sommes pris par le temps. On va être boutés hors de cette salle d'ici peu. Donc peut-être que malheureusement, on ne peut pas continuer l'échange. Mais je propose, cher public, si vous avez des questions, c'est le moment.
C'est pas vraiment une question, mais ce n'est quand même. Nous sommes allés à Madagascar, je sais plus, c'est en 2006, par là, 2006-2007. Et on était allés en pays Afimanir. On était partis avec un guide, et tous les deux, avec mon mari, on était allés jusque dans tous les villages Afimanir, et évidemment, il pleuvait. Et là-bas, il y a beaucoup de brume. Comme vous dites, on passe le long des petites diguettes dans les rizières, et vous glissez. Et donc, on avait marché jusqu'au premier village, et on a dormi chez les gens qui nous ont accueillis avec une gentillesse incroyable, en nous laissant leur lit et en dormant à côté. Et le lendemain matin, il fallait repartir. Et nous n'avons pas voulu repartir parce que on n'a pas 20 ans, et pour faire des acrobaties d'équilibre sur les diguettes, on a dit non, on ne veut pas partir, on reste là, on reste encore une journée. Et très très gentiment, ils nous ont dit vous restez, vous dormez chez nous, etc. Bon, donc on n'a pas eu à rentrer, on est resté là, et on a été extrêmement touchés par leur accueil. Donc on cherchait comment leur faire plaisir. Et puis quand vous êtes dans un village Afimanir, perdu au milieu de tout, au milieu de la montagne, il n'y a pas grand chose. En plus, quand il pleut, il y a quelques poules, il y a quelques porcs qui se baladent dans les ruelles du village. Et nous aussi, on se promenait comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur faire plaisir? Et tout d'un coup, on a vu un cochon noir. on va acheter un cochon et on va manger un cochon tous ensemble ce soir. Alors ils ont trouvé l'idée géniale et ils ont attrapé le cochon, ils ont tué le cochon, ils l'ont cuisiné. Et le soir, on est allé manger avec eux dans une case et tout le hameau était là. Et là, il y avait toute une symbolique qui nous a échappé. Mais alors peut-être que vous pouvez nous aider parce qu'effectivement, c'est très riche. Mais on ne s'est pas assis n'importe où. En plus, des hommes affuménirs valides et qui peuvent sculpter, il n'y en a pratiquement plus. Ils sont partis sur la côte ouest. Et il reste les vieux, et puis les femmes et les enfants. Et tout le monde était là. Mais il y avait une place pour chacun, avec une orientation bien précise. Et bon, on n'a pas tout compris. Hein. Et je sais que vous savez peut-être aussi ça. L'araignée est symbolique. Et vous pouvez peut-être expliquer cela.
Alors, on a produit deux livres sur la question, donc je vous invite à les regarder. Mais effectivement, chaque motif Zafmanir a un nom, et au départ, il s'agissait de motifs qui avaient une signification qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de magique, c'est-à-dire d'indiquer dans quel état était la maison, de repousser les mauvais esprits. Donc, aujourd'hui, ces sens-là, premiers, ont été perdus parce qu'au moment de l'évangélisation, les pasteurs et les prêtres ont dit « Oh là là, mais la magie, c'est dangereux. Vous continuez à graver si vous voulez parce que c'est très joli ce que vous faites. » Mais oublions tout ce sens-là. Et heureusement, il est resté le nom des motifs. Et il y a un des travaux qu'on a fait là-bas, c'est effectivement de valoriser ces motifs-là et de faire un travail avec les sculpteurs et les enfants pour remettre un peu d'actualité ces motifs, s'interroger sur leur sens, sur leur signification. On peut les voir comme une sorte d'alphabet. Par exemple, le losange, c'est l'alvéole, c'est l'abeille, c'est le miel. Donc, c'est l'égalité aussi, l'équité entre les membres de la communauté. Voilà, chaque motif Zafmanir a un sens bien précis. Ce qu'on peut dire, enfin je pense que c'est ce qui vous a touché et ce qui nous a touché nous aussi en allant chez les Zafmanir, c'est que même si les gens d'Embouchtre disent que chez les Zafmanir il n'y a rien, parce qu'il n'y a vraiment rien, eh bien nous on a trouvé qu'ils étaient effectivement très riches et c'est pour ça que c'est devenu une sorte de famille d'adoption et qu'on est retourné pendant une dizaine d'années comme ça chaque année pendant notre mois de vacances chez les Zafmanir parce qu'on s'y sentait accueilli comme chez nous et je pense que vous avez ressenti ça aussi. Alors sur l'orientation de la maison, effectivement c'est assez codifié, la porte est à l'ouest, on installe les anciens, les personnes les plus honorables toujours au nord-est, là où on va verser quelques gouttes de toque pour rendre hommage aux ancêtres partis. Et puis, bon, il y a quand même le maître de famille qui va s'installer plutôt plus près du coin nord-est et les femmes qui vont rester plutôt vers le foyer au sud-ouest. Mais en tant que visiteur de marque, on va vous installer, vous aussi, au nord. Au nord de la maison. C'est assez codifié, effectivement. Il y a eu beaucoup d'ouvrages décrits là-dessus, notamment une thèse de Coulot, qui a écrit une thèse dans les années 60 sur l'architecture Zafmanir. Ils ont été classés patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ce qui ne leur a pas forcément rendu un bon service, parce que depuis, il y a eu un afflux de touristes très important, notamment au sein de la capitale Antwerp, qui a rapidement été défigurée. Et il y a un travail de reconstruction qui a été mené, mais voilà, c'est toujours un équilibre entre valoriser le patrimoine et le détruire. Quand on est touriste aussi, avec beaucoup de bonne volonté, parfois on fait beaucoup de mal, notamment avec le don inapproprié, enfin des choses qui viennent se surajouter et qui ne sont pas souhaitables.
Malheureusement, on va devoir terminer cet échange parce que les techniciens ont quand même de fortes contraintes horaires à respecter. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin.
Vous pouvez évidemment poursuivre la discussion dans le hall, il n'y a aucun problème, je suis vraiment désolée. Mais à 16h, il y a le stand librairie, oui, de toute façon Zohar va dédicacer au stand librairie maintenant. Vous avez également une déambulation des grandes personnes sur le parvis de l'espace Malraux qui vient de commencer. Et à 16h30, dans cette même salle, vous avez une restitution d'un travail qui a été fait par Jean-Luc Rahariman à l'école de musique de Jouer les Tours, qui s'appelle « Temps, la partition des mots ».